Inès de la Fressange, Sophie Marceau, Vanessa Paradis, Charlotte Gainsbourg, ces femmes représentent dans l'imaginaire collectif l'idée que l'on se fait de la femme française, forcément parisienne, évidemment, et en même temps, hélas, car que de clichés véhiculés par cette icône. Bonjour Alice Pfeiffer.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous dirigez les pages mode des Un Roc, vous pigez pour le quotidien britannique The Guardian et pour le magazine Vogue International. Et je précise aussi, ça a son importance que vous êtes franco-britannique. Vous avez vécu des deux côtés et vous venez de publier Je ne suis pas parisienne chez Stock. Elle ressemble à quoi cette parisienne?
Alors cette fameuse parisienne que d'ailleurs je n'ai jamais rencontrée, mais que je la cherche encore.
Vous dites c'est une licorne. Hein,
c'est une licorne, c'est-à-dire que même moi qui étais à l'école à Paris quand j'étais petite, je ne l'ai toujours jamais rencontrée. Dans l'imaginaire collectif, ça va être une grande femme qui mesure 1 mètre. Beaucoup trop, avec des talons de 12 cm, une baguette sous le bras et un carré autour du cou et un caniche.
Et un livre qui sort de la poche si possible.
Un béret.
Un livre.
Un béret, ah bah, for Sartre forcément.
Ouais, voilà.
Et si on y croit les pubs du parfum, elle est aussi suspendue à la Tour Eiffel en train d'attendre le prince charmant.
Et elle n'a pas besoin de brushing.
Jamais, elle est toujours parfaite.
Elle vieillit pas, c'est formidable.
Elle vieillit pas, elle grossit pas, elle est complètement exemptée de toutes les pressions qu'ont les femmes.
Elle date de quand cette figure? De quand date cette construction?
Alors, je pense qu'on a vu les premières ébauches d'abord dans les années 20 chez les garçons, puis dans les années 60, il y a eu la sacralisation du corps femme-enfant, comme on a pu le retrouver encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au personnage de Jane Birkin qui continue d'incarner ça. Et puis on a vu vraiment sa solidification au moment de la formation des groupes de luxe, au tournant des années 2000. Où tout à coup des marques de luxe devaient vendre le produit, mais qui l'enrobaient d'un mythe qui était le mythe de Paris. Et dans ce mythe de Paris, il y avait donc des macarons, la Tour Eiffel et la femme parisienne qui devient la preuve tangible qu'il y a un savoir-vivre, un savoir-faire purement français.
Est-ce que derrière, il y a quoi derrière? C'est du snobisme? C'est carrément un réflexe de classe?
Il y a énormément de mépris de classe en fait. C'est le reflet d'une ville qui est centralisée, qui est très très peu diversifiée. C'est une femme qui est toujours mince, donc on peut lire une forme de grossophobie. C'est une femme qui est toujours blanche, donc c'est une forme de racisme.
Elle vieillit pas.
C'est une femme qui vieillit pas, donc ce n'est pas formidable pour toutes les questions d'agisme qu'on a en France. C'est une femme qui grossit pas, donc ça je l'ai déjà dit d'ailleurs, donc qui cache des régimes. Donc c'est un exercice de surveillance constant pour les femmes. Qui devrait avoir l'air parfaite, effortless comme on dit, mais qui en fait a énormément de travail à faire pour correspondre à ces clichés.
Quand est-ce qu'elle vous a sauté aux yeux cette image de la Parisienne?
Bah en fait très jeune, j'étais à l'école en Angleterre et je revenais pas tous les week-ends, je revenais pour les vacances et je voyais dans les boutiques de duty free des femmes et des publicités que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que moi j'avais des copines à Paris qui ressemblaient à peu près aux adolescentes anglaises, hein, qui on était définies par ce qu'on écoutait, les sous-cultures à laquelle on appartenait, qu'on soit gothique ou skater ou je sais pas quoi. Et à côté de ça, il y avait une image que je voyais dans certains films, que je voyais dans les films de Woody Allen et que je voyais dans les publicités pour parfums notamment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui cette fille? Je comprenais pas parce que c'était moi la française de l'école et pourtant je ressemblais en rien à ça. Donc c'était vraiment, c'est quand j'ai pris conscience de tout le marketing qu'il y avait autour de la France.
Vous avez essayé d'y ressembler à cette Parisienne?
Inconsciemment, je pense, parce que je suis arrivée d'Angleterre et alors je m'habillais avec des collants de chapelier fous, des robes à fleurs, des couronnes en plastique sur la tête. Et je voyais les commentaires que se permettaient de faire des inconnus dans la rue. Et doucement, malheureusement, je crois que j'ai commencé à lui ressembler parce que je porte beaucoup plus de noir aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une pression à ressembler à quelque chose qu'on n'a pas forcément compris, mais on a compris qu'on n'avait pas trop d'options.
Et au final, ça fait plus souffrir qu'autre chose.
Je pense que c'est une énorme pression pour les femmes parce que les Parisiennes se sentent illégitimes, les femmes qui ne viennent pas de Paris encore plus. Donc en fait, il y a de la place pour personne, sauf une toute petite élite bourgeoise qui nous dicterait que tout le pays ressemble, alors qu'en fait, c'est une toute petite minorité privilégiée au max.
Et ça induit en plus des comportements tout simplement méchants. Hein. Je cite l'exemple du garçon de café. Hein. Vous revenez justement d'un voyage en Angleterre, vous êtes dans une brasserie de la gare du Nord à Paris, et il y a le garçon de café qui se permet de vous dire quand même, vous n'allez pas reprendre des frites quand même.
Tout à fait, en tapotant sur ses hanches pour m'indiquer où les calories des frites allaient atterrir. J'ai toujours vécu des trucs comme ça très étranges, où en Angleterre, en fait, il y a cette philosophie du none of your business, ça ne vous regarde pas. Et donc tout ce qui ne touche pas directement à l'autre personne ne regarde personne. Je me souviens de m'être fait pourrir dans le métro de nombreuses fois parce que je me maquillais dans le métro, parce que ça ne se fait pas. Je me souviens d'arriver à un dîner mondain où on m'a dit « Et voilà Alice qui est venue avec du fromage industriel. » Et ça fait rire tout le monde et c'est beaucoup beaucoup de moqueries qui une fois de plus reflètent un jeu de classe qui est indécollable et qui est très compliqué à déconstruire.
Au Royaume-Uni, la londonienne n'existe pas?
En fait, au Royaume-Uni, il y a plusieurs londoniennes. Donc de toute façon, Londres est très très grande. Du coup, il y a une grande démarcation entre les gens qui vivent à East London, dans l'est de Londres, ou West London, et que qui sont donc le quartier plus chic. Il y a beaucoup de sous-catégories de londoniennes. Donc il va y avoir la English Rose qui va être l'anglaise classique blonde aux yeux bleus, mais il va aussi avoir des formats de punkettes qui vont vivre dans l'est de Londres. Donc de toute façon, on est beaucoup plus défini par l'accent, mais il y a une fierté de venir de Liverpool, de Manchester. Il y a des figures comme Michael Caine qui avait des accents très populaires qui étaient énormément appréciés à la radio et la télé, et aujourd'hui ça continue, et en France on n'a pas du tout ce genre de diversité.
Et pourtant, vous nous dites qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des catégories. Hein. Vous faites un chapitre sur la cagole, la cougar, la beurette, qui véhiculent tout autant de clichés d'ailleurs.
Mais c'est parce que ce sont des formules en 2D. C'est la seule personne qui compte, c'est les femmes qui sont créées comme une espèce de poil à gratter géant, dont tout le monde se moque, mais en fait qui ne sont pas du tout respectées comme modèle alternatif. Donc la seule personne qui a le droit d'être française et parisienne, qui peut se le revendiquer, ce n'est que cette femme parisienne. Les autres servent au contraire à renforcer ce modèle dominant.
Est-ce qu'il faut tuer la Parisienne? Et comment on la tue?
Je pense qu'on la tue en la faisant vivre plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, ce serait pouvoir, d'une part, démultiplier ce modèle. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre les filles qui veulent s'habiller comme ça. Seulement, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on s'habille quand on est parisienne et qu'on fait plus que du 40. Comment est-ce qu'on se coiffe quand on est parisienne, entre guillemets, et qu'on a les cheveux crépus, par exemple. On manque beaucoup d'autres alternatives qui pourraient nous prouver que ce modèle est ouvert à plein de femmes. Et aussi... où sont toutes les autres femmes qui elles, ne n'ont pas du tout envie d'être parisiennes?
Mais donc ça va venir de qui? Qui va impulser ce changement? Qui doit impulser ce changement, selon vous?
La mode devrait le faire, parce qu'il faut voir que la plupart du temps dans les boutiques les tailles s'arrêtent aux 40. Je pense que grâce à Internet on a aussi une fierté, il y a des mouvements féministes qu'on a nommés empowerment, sex positive, donc des modèles qui viennent de l'étranger, et il y a heureusement, c'est le bon côté de la culture Internet, il y a des familles qui ont pu se créer en ligne, de gens qu'on n'a pas rencontrés de façon tangible, qui vont être à l'autre bout du monde mais qui vont pouvoir nous montrer des modèles alternatifs.
Une dernière question, le Parisien, il est où? Il existe?
Le Parisien, je pense que c'est la puissance invisible, c'est le patriarche invisible qui veille sur les femmes. Il existe, mais on le voit beaucoup moins, il est beaucoup moins codifié, sauf dans les films anglo-saxons, où c'est toujours quelqu'un qui lui aussi a Sartre sous le bras, la mèche tombante. Non, mais ça va être des Gaspard Ulliel ou des Louis Garrel qui vont incarner la France, mais pour l'étranger.
Je ne suis pas parisienne, sous-titre Éloge de toutes les Françaises. C'est le titre de votre livre, Alice Pfeiffer, qui est publié aux éditions Stock. Vous étiez l'invité du 5-7.